Nous venons de chanter « Je crois au Saint-Esprit, le grand consolateur. Je crois que des divins écrits, il est l'auteur. » Et donc, de ces divins écrits, nous allons lire une portion maintenant. Et donc, ce sera à l'écoute du Saint-Esprit lui-même qui s'adresse à nous. Nous lirons dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 5, les versets 22 à 24. Alors, vous remarquerez que je délaisse l'Évangile de Jean. Nous avons fait un excellent parcours d'une bonne portion de l'entretien de Jésus en privé avec ses disciples. Ce n'est pas terminé, mais je laisse en repos pour un certain temps cet entretien de Jésus dans l'Évangile de Jean pour explorer d'autres pistes, en particulier des textes, des passages où Dieu s'adresse à des personnes en particulier dans son Église. Ici, nous commençons par une parole qui s'adresse aux épouses. Mais dans les mois prochains, il y aura beaucoup d'autres paroles qui s'adresseront à l'une ou l'autre catégorie de personnes dans l'Église. Donc, écoutons ensemble la parole de Dieu, Éphésiens 5, versets 22 à 24. « Femmes, soyez soumises chacune à votre mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en tout, chacune, à son mari. » Prions. Père Céleste, c'est le Saint-Esprit qui a guidé l'apôtre Paul à écrire ces quelques lignes. Ce ne sont pas des idées qui viennent de l'apôtre Paul, mais qui viennent de toi. C'est ta volonté pure et bonne pour ton Église, et en particulier pour les épouses chrétiennes. Nous te prions, notre Dieu, que ton Esprit qui a mis par écrit, qui a fait mettre par écrit cette parole, puisse aussi mettre dans nos cœurs cette parole, que nous la comprenions, que nous puissions l'apprécier, qu'elle soit notre guide, notre lumière. Nous te prions, notre Dieu, de nous éclairer par la puissance de ton Esprit Saint et par son action secrète et profonde dans nos cœurs. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Peuple bien-aimé du Seigneur, l'Esprit de Dieu parle à toute l'Église. Et l'Esprit de Dieu parle aussi à chacun et chacune dans l'Église. Dans la lettre aux Éphésiens, Dieu parle à tous les membres de l'Église, à tous les saints qui sont à Éphèse. Pendant 5 chapitres, toute l'Église est concernée par cette parole directement. Et à partir d'Éphésiens 5, 22, jusqu'à une partie du chapitre 6, l'Esprit de Dieu se met à parler à des personnes spécifiques dans l'Église. On met le spot sur certaines catégories de personnes dans l'Église. Il parle aux épouses, aux maris, aux enfants, aux parents, aux serviteurs, aux maîtres. Il a une parole distincte, différente pour chacun et chacune d'entre elles. Et on voit le même phénomène ailleurs dans la Bible. Dieu parle à l'ensemble de l'Église, et puis, il s'adresse aux jeunes hommes, aux hommes plus âgés, aux jeunes femmes, aux femmes plus âgées, aux personnes célibataires, aux veuves, aux enfants, aux patrons, aux travailleurs, aux pasteurs, aux anciens, aux diacres. N'est-ce pas remarquable? En Jésus-Christ, nous avons tous le même Père. Nous avons tous le même Sauveur. Nous avons tous le même Esprit. Nous sommes tous habités du même Esprit Saint. Nous avons tous le même salut, le même héritage et la même vocation chrétienne, essentiellement. Mais nous sommes tous différents les uns des autres. Nous avons reçu des dons, des talents différents. Nous avons des vocations différentes dans la vie. Dieu nous place dans des lieux, des occasions de servir différentes. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu a une parole non seulement pour l'ensemble de l'Église en général, mais une parole particulière pour chacun et chacune d'entre nous. N'est-ce pas spécial? Dieu s'intéresse tout particulièrement à des personnes individuelles ou à des catégories de personnes parmi son peuple. Et dans notre texte, à qui l'Esprit de Dieu parle-t-il en premier, de manière spécifique? Aux épouses chrétiennes. L'honneur leur revient. Ça nous intéresse tous, toute l'Église, de savoir ce que l'Esprit dit aux épouses chrétiennes. Donc, vous restez tous sur vos bancs, ce n'est pas juste aux épouses chrétiennes qu'elles doivent entendre. Nous sommes tous intéressés. Ça intéresse les maris, bien entendu. Ça intéresse les jeunes hommes qui pensent peut-être un jour se marier. Ça intéresse les jeunes filles qui pensent aussi peut-être se marier. Ça intéresse les frères, les sœurs, quelle que soit notre condition, ne serait-ce que pour mieux encourager et mieux prier pour nos sœurs qui ont reçu la grande vocation d'être épouses. Le sujet d'aujourd'hui intéresse toute l'Église, puisque la santé de tout le corps, de toute l'Église, en dépend. Alors, que dit l'Esprit aux épouses chrétiennes? Éphésiens 5, 22, « Femmes, soyez soumises chacune à votre mari comme au Seigneur. » Alors voilà, c'est lancé, la table est mise. Prenons le temps humblement de bien écouter ce que l'Esprit dit à l'Église et en particulier aux épouses chrétiennes. En résumé, c'est le résumé, le thème de ce message. Une épouse chrétienne remplie de l'Esprit se soumettra de bon cœur à son mari. Trois questions sont soulevées. Qu'est-ce que se soumettre? Pourquoi se soumettre? Comment se soumettre? Quoi? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que se soumettre? La lettre aux Éphésiens a pour sujet la nouvelle humanité recréée en Jésus-Christ. C'est le grand thème de l'Épître. La nouvelle humanité recréée en Jésus-Christ. La nouvelle humanité des sauvés, élus depuis toujours, sauvés gratuitement par pure grâce en Jésus-Christ, transformés par la puissance de l'Esprit. C'est le grand thème. Éphésiens 4 et 5 nous met un accent particulier sur l'ancienne façon de vivre que nous rejetons chaque jour un peu plus et la nouvelle vie, la vie nouvelle que nous recevons qui est produite par l'Esprit Saint. Ça, c'est Éphésiens 4 et 5. L'Église de Dieu est le chef-d'œuvre de la grâce. Jésus déploie son amour, sa puissance, sa sagesse pour produire ce chef-d'œuvre de son peuple, la nouvelle humanité, recréée, rachetée, transformée par l'Esprit. Comme un artiste qui est affairé à peindre le plus beau tableau ou à ciseler la plus belle sculpture. Nous sommes son ouvrage, nous dit Paul en Éphésiens 2. Nous sommes son ouvrage pour célébrer la gloire de sa grâce. Et maintenant, nous arrivons à Éphésiens 5, versets 19 à 22. Et je vous lis dans notre traduction. « Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantez et célébrez le Seigneur, rendez toujours grâce, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ, femmes, soyez soumises chacune à votre mari. » Quand on regarde dans l'original grec, on s'aperçoit que les verbes ici, à l'impératif, ne sont pas à l'impératif, mais sont des participes présents. Et se raccrochent tous au verset 18. Donc, il faut reculer au verset 18, qui est le début de la phrase. Donc, c'est une longue phrase, verset 18 à 22. Et cette phrase commence par deux impératifs. Donc, on reprend la lecture. « Ne vous enivrez pas de vin », premier verbe à l'impératif, c'est de la débauche, mais « soyez remplis » de l'Esprit, deuxième verbe à l'impératif. Vous entretenant par des psaumes, chantant et célébrant le Seigneur, rendant toujours grâce, vous soumettant les uns aux autres et, plus spécifiquement, femmes, vous soumettant chacune à votre mari. Tout commence par soyez remplis de l'Esprit et tout le reste s'y rattache. soyez remplis de l'Esprit, et alors l'Esprit purifiera vos cœurs. Il vous donnera le désir de chanter les louanges de Dieu. Il vous rendra reconnaissant. Il vous rendra capable de vous soumettre les uns aux autres. Et vous, les épouses en particulier, soyez remplis de l'Esprit, c'est l'ordre, vous soumettant à votre mari comme au Seigneur. Voyez le lien, les connexions logiques. Ça veut dire très simplement que la soumission de la femme à son mari est un fruit de l'Esprit. C'est un fruit de l'Esprit. C'est le résultat d'être rempli de l'Esprit. Ça fait partie du chef-d'œuvre créé par Jésus-Christ. C'est une partie de la magnifique sculpture qui est en train de ciseler à sa gloire. Vous savez très bien que le sujet de la soumission passe très, très mal aujourd'hui, en particulier la soumission de la femme. Je ne vous apprends rien. On accuse Paul d'être un arriéré, misogyne, phallocrate, mettez tous les mots que vous voulez. La soumission, c'est archaïque, c'est dégradant. La femme, maintenant, elle est libérée depuis longtemps. Abat la soumission. Même dans l'Église, on devient nerveux quand on se met à en parler. On est un peu mal à l'aise. Ou bien parfois, on fait des blagues un petit peu déplacées. On ne sait pas trop comment traiter cette question. On est gêné d'avoir des vœux de mariage où la mariée promet de se soumettre à son mari publiquement. On a peur de faire rire de soi. On prétend même parfois que Paul était imprégné d'une culture vraiment très vieux jeu et qu'il faudrait traficoter ses paroles pour les adapter à notre culture moderne plus évoluée. Autrement dit, il faudrait faire dire à Paul tout le contraire de ce qu'il dit. Les Écritures soumises à la culture. Chers frères et sœurs, ce que l'Esprit dit ici aux épouses est libérateur. La vraie bonne soumission de la femme à son mari est l'œuvre de la grâce. Ce n'est pas une vieille affaire pour des arriérés d'une époque ancienne révolue. Au contraire, cela fait partie de la nouveauté de vie recréée par Jésus-Christ lui-même et par son Esprit Saint. La soumission de la femme à son mari, du moins lorsqu'elle est bien comprise et bien vécue, ne devrait pas nous rendre mal à l'aise ou honteux. Au contraire, cette très belle attitude fait partie de l'œuvre de la grâce. Ça fait partie d'être des enfants de lumière qui marchent dans la lumière, bonté et justice agréable à Dieu. La soumission à son mari est une marque distinctive des femmes chrétiennes remplies de l'Esprit. C'est quelque chose. Celles qui se soumettent à leur mari, mais d'une mauvaise manière, parce qu'il y en a eu dans l'histoire et il y en a sans doute encore, eh bien, celles-là ne sont pas inspirées par la grâce de Dieu. Il y a des mauvaises façons de se soumettre. Et ce n'est pas de ça qu'on parle. Seul Jésus-Christ peut produire une bonne et vraie soumission dans le cœur et dans la vie des épouses chrétiennes. L'œuvre de la grâce est un sujet de joie et à la gloire de Dieu. C'est une bonne chose. C'est une excellente chose. Qu'est-ce que se soumettre à son mari? C'est se placer librement sous l'autorité de son mari. C'est accepter humblement et joyeusement de suivre la direction qu'il donne. Ce n'est pas un gros casse-tête, ce n'est pas très compliqué à comprendre. Ça n'a rien de méprisant, ça n'a rien de rabaissant, il n'y a pas d'infériorité dans ça. Jésus lui-même, la deuxième personne de la Trinité, s'est soumis au Père, la première personne de la Trinité. À l'intérieur même de la Trinité, il y a ce rapport d'autorité et de soumission. Depuis toute éternité, ça doit être une bonne chose. Et Jésus n'a jamais perdu sa dignité. Au contraire, c'est notre salut qui en dépendait. La soumission à la volonté de son Père, c'était pour notre salut. Et cette soumission de la femme ne veut surtout pas dire que la femme ne pourrait pas pleinement développer ses dons, ses talents, ses belles qualités produites par le Saint-Esprit. Ce n'est pas pour la tasser, la diminuer. Au contraire, une femme remplie de l'Esprit développera très richement toutes les belles caractéristiques de la vie nouvelle que vous pouvez lire en détail en Éphésiens 4 et 5. Bien sûr, ce sera avec des luttes, ce sera avec des tentations, avec des combats, avec des échecs, des hauts et des bas, comme pour tout le reste de la vie chrétienne, comme aussi pour les luttes et les combats de son mari à ses côtés, qui lui aussi a un appel, une vocation différente. Et on en parlera une autre fois. Mais cette femme sera soumise à son mari parce qu'elle est libérée par Jésus-Christ, libérée de ses péchés à elle, en paix avec Dieu. Elle aura le désir et la volonté de se soumettre à son mari parce qu'elle appartient corps et âme à Jésus-Christ, son unique sauveur. Elle ne trouvera pas sa valeur en elle-même, dans son autonomie propre, dans son émancipation, dans son amour propre. Sa valeur, elle la trouvera dans son sauveur. Sa joie, elle la trouvera là. Elle n'aura donc aucune hésitation à pleinement contribuer au bien de son mari, de son foyer, de sa famille. Tous ses dons, tous ses talents sont là pour ça. Par la grâce de Dieu, rempli, étant rempli de l'Esprit, en acceptant humblement de se soumettre à la direction de son mari. Deuxième question, pourquoi se soumettre? Pourquoi la femme devrait-elle se soumettre à son mari? L'Esprit de Dieu nous donne ici deux bonnes raisons. La première raison s'enracine dans la création. Verset 23, car le mari est le chef de sa femme. Le mot « chef » signifie la tête, « képhalē » en grec. L'homme est la tête de la femme et la femme est le corps. Les deux, évidemment, vous comprenez, sont inséparables. Un corps sans tête, c'est un corps en convulsion, comme des poules sans tête. Beaucoup de femmes aujourd'hui sont en convulsion et ce n'est pas juste de leur faute. Si l'homme est la tête de la femme, c'est à cause de l'ordre créationnel tel qu'établi par Dieu au commencement. Ce n'est pas une affaire culturelle, ce n'est pas du chauvinisme, c'est du créationnisme. Au verset 31, Paul cite Genèse 2, donc le texte fondateur de l'institution du mariage. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Dans la Genèse, l'ordre chronologique est déterminant. Dieu a d'abord créé qui? Adam. Et ensuite, il a créé Ève. Et Paul conclut en 1 Corinthiens 11, 9, donc, l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme, pour l'homme. Et c'est ce que Genèse 2, 18 nous dit. « Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. » L'épouse n'est ni inférieure pour être écrasée par son mari, ni supérieure pour piler sur son mari. Elle est une compagne de vie pour aider son mari à réaliser sa vocation à lui. La vocation du mari est première, parce que lui a été créé le premier. La vocation de l'épouse découle et dépend de celle du mari. Dieu donne une épouse pour combler les déficiences du mari. Comprenez bien, c'est pour compléter son mari, c'est pour le parfaire. Mes chères sœurs qui êtes mariées, si vous voulez être un bon complément pour votre mari, c'est important de cultiver une attitude de soumission. Autrement, vous n'arriverez jamais à vous compléter. Vous ne serez pas une aide pour lui. Vous serez deux entités qui habitent dans la même maison, qui font des choses ensemble, mais deux entités qui veulent être autonomes. C'est bien triste, le péché déchire les relations avec Dieu, les relations entre nous. L'homme devient tyran ou absent. La femme devient rebelle ou sans cervelle. L'un ou l'autre, c'est pas mieux. Ça brise l'harmonie dans le couple. Alors revenons à Dieu, revenons à sa sagesse, dans la repentance et dans la foi. En Jésus-Christ, le Saint-Esprit nous restaure pour vivre à nouveau des relations harmonieuses, favoriser l'harmonie dans le mariage. Dieu place le mari pour être la tête. Sa femme trouvera sa vraie place non dans la révolte, non à côté de la tête, non dans la passivité non plus, en s'écrasant, mais dans une soumission joyeuse et active, proactive, pour aider son mari à bien accomplir sa vocation de chef. En acceptant l'autorité de votre mari, vous ne serez pas inférieur, au contraire. Vous réaliserez la belle vocation que Dieu vous a confiée. Et vous rendrez gloire à Dieu, votre Créateur, et vous ferez du bien à votre foyer et à l'Église de Jésus-Christ. Première raison, donc, enracinée dans la création. Deuxième raison, s'enracine dans la rédemption. Verset 23, « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. » Le Seigneur a mis un ordre entre lui et son Église, n'est-ce pas? Il a mis un ordre semblable entre le mari et la femme. La relation entre le mari et la femme est là pour refléter la relation entre le Christ et son Église. C'est quelque chose de digne, de grand, de mystérieux. Le mari est la tête de la femme comme Christ est la tête de l'Église. Et nous verrons une prochaine fois la grandeur de cette vocation qui est immense et qui est un grand défi. La femme se soumet à son mari comme l'Église se soumet au Christ. Et les rôles sont irréversibles, on ne peut pas les changer. L'Église ne peut pas prendre la place du Christ, tout comme la femme ne peut pas prendre la place du mari. Oui, Jésus-Christ a autorité sur son Église, une autorité qui n'a pas pour but d'écraser ou d'abaisser, au contraire, qui a pour but de sauver, de faire du bien, de prendre soin. Bien sûr, le mari n'est pas le sauveur de sa femme, ce n'est pas du tout ce que Paul veut dire ici. Il est la tête qui veut le bien de son corps, qui prend soin de son épouse. Le mari, rempli de l'Esprit, prendra soin de son épouse comme Christ prend soin de l'Église. La femme, remplie de l'Esprit, se soumettra de bon gré à son mari comme l'Église se soumet à son Seigneur. Homme, mari, ici, si vous ne prenez pas soin de votre épouse, eh bien, honte à vous. Jésus, la tête, permet au corps d'être en santé, de grandir jusqu'à pleine maturité. En réponse, l'Église se soumet de bon gré au Seigneur, et c'est l'exemple à suivre pour les maris et les épouses. Alors pourquoi, mes sœurs, vous soumettre à votre mari? Est-ce que c'est parce qu'il est plus sage que vous? Ou bien parce qu'il a de meilleures idées que vous? Parce qu'il sait mieux comment gérer la maison? Parce qu'il est plus spirituel, qu'il connaît mieux la Bible? Non, pas du tout, c'est rien de ça. C'est parce que votre Créateur a donné à votre mari cette autorité. Et c'est parce que votre Sauveur a fait de votre mariage une image vivante de la relation entre le Christ et son Église. C'est les deux raisons. Il est bien certain que votre mari n'est pas un merveilleux Sauveur. On s'entend tous là-dessus. Il a plein de défauts. Il a des faiblesses, il a des péchés de toutes sortes. Vous aussi, mesdames. Il est loin de toujours agir à l'image du chef de l'Église, votre mari, c'est certain. Tout comme vous êtes loin de toujours vous soumettre à lui. Il a besoin, votre mari, de se repentir. Vous aussi, les épouses. Il a lui-même besoin d'un sauveur, tout comme vous. S'il vous arrive de penser que votre mari n'a pas les meilleures qualités pour être un bon leader, ce n'est pas une raison pour contester sa direction. Si vous trouvez que ses décisions ne sont pas toujours les meilleures, ce n'est pas une raison de vous y opposer. Vous n'êtes pas là pour lui mettre des bâtons dans les roues. Vous êtes là pour l'aider à réaliser sa vocation de chef. Si vous êtes tenté de contester sa direction, priez d'abord pour lui. Mettez-vous à genoux premièrement. Demandez à Dieu qu'il soit rempli de l'Esprit lui aussi. Et ensuite, faites-lui profiter de votre sagesse et de vos bonnes idées avec douceur. Ça va l'aider, il en a besoin, il a besoin de votre aide. Mais de grâce, lâchez l'os. Ne vous battez pas pour faire prévaloir votre point de vue. Laissez-lui l'occasion de donner la direction. Donnez-lui une chance d'être un chef. Un bon chef, un mauvais chef, mais un chef qui progressera de jour en jour dans la grâce, qui a besoin de progresser comme nous avons tous besoin de progresser dans notre vocation particulière. Mais votre responsabilité à vous, les épouses, c'est d'accepter humblement la direction de votre mari. Pourquoi? Parce que vous êtes une femme remplie de l'Esprit qui appartenait à Jésus-Christ. C'est votre grand trésor. Et parce que Dieu a établi votre mari pour être votre chef, comme Christ est le chef de l'Église. Il nous reste une question. Comment se soumettre? De quelle manière la femme doit-elle se soumettre à son mari? Et c'est remarquable quand on lit ce texte, la parole de Dieu ne donne pas une longue liste de choses à faire ou à ne pas faire, n'est-ce pas? Contrairement parfois à certains chrétiens qui veulent tout catégoriser. Le Saint-Esprit nous donne seulement les grandes lignes avec beaucoup de liberté. D'abord, première ligne directrice au verset 22, « Soyez soumises comme au Seigneur. » Comme au Seigneur, c'est-à-dire comme si c'était Dieu qui vous donnait sa direction à travers votre mari. Parce qu'en réalité, c'est bien ça qui se passe, c'est à travers votre mari que Dieu veut vous guider. C'est la volonté de Dieu que vous soyez soumises chacune à votre mari. C'est la volonté de Dieu, premièrement. Alors, c'est important d'estimer que c'est une très bonne chose. Donc, faites-le non pas d'abord par amour pour votre mari, bien que vous soyez appelé à l'aimer, mais d'abord par amour pour le Seigneur, pour lui plaire à lui. Deuxième piste au verset 24, « Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en tout chacune à son mari. » Donc, on a déjà un peu vu, de la même façon que l'Église se soumet au Christ. Et ici, bien sûr, l'exemple de l'Église est loin d'être parfait. Sommes-nous, en tant qu'Église, toujours soumis à Jésus-Christ, notre chef? Est-ce que nous écoutons attentivement sa parole? Suivons-nous de tout cœur sa direction? Nous avons si souvent besoin de revenir à lui en lui demandant pardon. Et son pardon est promis à tous ceux qui se repentent et qui croient en lui. Et par la force du Saint-Esprit, bien, nous nous relevons en tant qu'Église et nous apprenons à nous soumettre au Christ. De même, l'épouse remplie de l'Esprit apprendra à se soumettre à son mari. Elle le fera très imparfaitement, avec parfois ses contestations ouvertes ou avec ses résistances passives. Elle aura besoin de demander pardon à son mari quand elle tombera, tout comme son mari aura besoin de lui demander pardon quand lui tombera. Par la grâce de Dieu et du Saint-Esprit, elle se relèvera et elle acceptera de bon gré de se soumettre aux bons soins de son mari. Une soumission libre, joyeuse et reconnaissante qui reflète la soumission reconnaissante de l'Église. Ça n'a rien de méprisant, ça n'a rien de rabaissant. Au contraire, cette épouse grandira dans la grâce. La lumière du Seigneur brillera dans son foyer. Sa maison sera bénie par l'Éternel. Troisième et dernière ligne directrice, au verset 24 encore, que les femmes se soumettent en tout, chacune à son mari. Comment se soumettre? En tout. Pas seulement en partie, pas seulement quand vous êtes d'accord avec votre mari, pas seulement quand sa direction vous plaît, quand votre mari est gentil avec vous, non, en tout. Pour tous les sujets, à toutes les occasions. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Et on commence à comprendre un peu mieux pourquoi il faut être rempli de l'Esprit. Non, ce n'est pas une obéissance carte blanche. Toute autorité humaine, que ce soit mari, que ce soit parent, que ce soit ancien dans l'Église, que ce soit gouvernement, comporte des limites. Dieu ne vous demande pas de vous soumettre à votre mari si votre mari vous demande quelque chose de contraire à la parole de Dieu. Si une autorité quelconque nous demandent de désobéir à Dieu. Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et nous avons plein d'exemples dans la Bible. Mais pour le reste, la soumission demandée à la femme ici est complète en toute chose, à l'image de l'Église remplie de l'Esprit qui se soumet en tout à Jésus-Christ. À réfléchir, mesdames. Nous avons entendu ce que l'Esprit dit à l'Église et aux épouses. Cette parole de Dieu trouve sa racine en Jésus-Christ. Cette parole trouve sa puissance dans le Saint-Esprit. Réjouissons-nous d'appartenir à Jésus-Christ. C'est notre plus grand trésor. Il a aimé son Église au-delà de toute mesure. Il en prend soin chaque jour. Il nous appelle tous à nous soumettre à lui joyeusement. Recevons son amour avec foi et reconnaissance. Soumettons-nous à sa direction pour nos vies. Soyons remplis de son esprit afin que chacun et chacune remplisse sa vocation avec joie. Amen.